OK, on va continuer notre étude sur le survol des 66 livres de la Bible. On en est rendu au livre des Proverbes. On est dans notre deuxième leçon. Alors, la deuxième leçon du livre des Proverbes, on va examiner aujourd'hui cinq autres facettes du livre des Proverbes. La première, on va regarder son enseignement sur la nature du Fils de Dieu, Jésus-Christ. La deuxième, on va regarder son message théologique. Son troisième, on va regarder deux pièges à éviter dans leur interprétation. Et quatrièmement, on va regarder un tableau sur l'origine, les enseignements et la valeur de la sagesse, qui est un thème bien important du livre de Proverbes. Et cinquièmement, on va regarder aussi un tableau sur la femme vertueuse du chapitre 31 du livre des Proverbes. On va regarder le premier point en premier, les Proverbes sur la nature du Fils de Dieu. Alors, le livre des Proverbes ne fait état d'aucune prophétie, ni type ou théophanie. Plusieurs versets donnent cependant un aperçu pertinent sur la nature du Fils de Dieu, soit la personne de Jésus-Christ. On a, par exemple, l'enseignement sur l'éternel engendrement du Fils de Dieu. Dans le chapitre 8, versets 22 à 24, et les versets 30 et 31. Alors, dans le contexte, on sait quand il parle de la sagesse, ici, il parle de Jésus-Christ. L'Éternel m'a acquise la sagesse au commencement de ses voies, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité. Dès le commencement, avant l'origine de la terre, je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau. J'étais à l'œuvre auprès de lui, et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence, jouant sur le globe de sa terre et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Alors, le Nouveau Testament présente le Seigneur Jésus-Christ comme le Fils unique venu du Père, Dieu le Fils unique, ou on l'appelle aussi le Fils unique de Dieu, et son Fils unique. Ces paroles de l'Écriture, confirmées par beaucoup d'autres, aboutissent à la conclusion que Jésus-Christ n'est en effet pas le Fils de Dieu dans le sens d'avoir eu un jour un commencement. Il ne s'agit pas non plus d'un titre honorifique, comme pour les gouverneurs de la terre. Il ne représente pas non plus un artifice destiné à nous rappeler son entrée dans la race humaine par des moyens surnaturels et non par une naissance ordinaire, même si le terme ranime en nous la mémoire de cette réalité. La première personne de la Trinité est appelée Père pour nous montrer quelle est sa relation éternelle avec le Fils. La deuxième personne est appelée Fils pour nous enseigner quel type de rapport elle entretient avec la première personne. Père et Fils sont des titres de la vie courante, mais ils contribuent à faire pénétrer dans notre pauvre esprit quelque chose de la relation dont ces deux personnes jouissent éternellement entre elles. Le Fils doit son engendrement au Père, mais l'inverse n'est pas vrai. Il est également dit que le Fils est le reflet de la gloire du Père et l'empreinte de sa personne, dans Hébreux chapitre 1, verset 3. Il lui serait impossible de l'être sans le Père, mais il n'est jamais dit que le Père est l'empreinte de la personne du Fils. Pourtant, de même que le Fils ne serait pas ce qu'il est sans le Père ne trouverait pas son expression sans Dieu, le Fils. Telle est la relation qu'entretiennent entre elles la première et la deuxième personne de la Trinité. Ne soyons pas surpris si l'être de Dieu transcende notre compréhension. Des siècles plus tôt, Tsophar avait déjà posé à son ami Job cette question insondable. Prétends-tu sonder les pensées de Dieu? Parvenir à la connaissance parfaite du Tout-Puissant? Elle est aussi haute que les cieux. Que feras-tu? plus profonde que le séjour des morts. Que sauras-tu? La mesure en est plus longue que la terre, elle est plus large que la mer. Job 11, versets 7 à 9. Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas une créature. Il est Dieu. Autant que le Père est Dieu. Tous deux sont Dieu. Tous deux le sont autant l'un que l'autre. Tous deux sont éternellement Dieu et tous deux sont Dieu dans la même acception du terme. Le symbole d'Athanase avait raison d'affirmer que le Fils tient son existence du Père seul. Il n'a été ni fait, ni créé, mais engendré. Deuxième enseignement sur le Fils de Dieu dans le livre des Proverbes, c'est la souveraineté du Fils sur la nature. Dans le chapitre 30, au verset 4, ça dit « Qui est monté aux cieux et qui en est descendu? Qui a recueilli le vent dans ses mains? Qui a serré les eaux dans son vêtement? Qui a fait paraître les extrémités de la terre? Quel est son nom? Et quel est le nom de son fils? Le sais-tu? » Comparons cette sagesse d'Agur, le fils de Jacquée, l'enseignement du Nouveau Testament concernant la participation du Fils de Dieu à l'œuvre de la création. La maîtrise que le Seigneur Jésus exerçait sur la nature confirme son rang de Fils unique. Il calma la tempête à deux reprises, marcha sur l'eau. Le voyant apaiser la tempête et marcher sur les eaux, les disciples ne purent qu'arriver à la conclusion « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Et troisième idée qui parle de Christ dans le livre des Proverbes, c'est le Fils personnifie la sagesse. La sagesse de Salomon préfigure celle du Seigneur Jésus-Christ, dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Le Seigneur Jésus déclara aux Juifs de son temps « La reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec les hommes de cette génération et les condamnera parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. » L'homme avisé, le sujet des Proverbes, est un homme pieux, juste et saint. La sagesse dont il est question dans ce livre se trouve pleinement et complètement en Christ. Les membres de son peuple n'ont sagesse, justice, sanctification et rédemption que dans la mesure où ils sont en Christ, car c'est ce qu'il a été fait pour nous, comme il est écrit. Que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Comme on peut le lire dans 1 Corinthiens chapitre 1, versets 30 et 31. Deuxième point qu'on va regarder, le message théologique du livre des Proverbes. La plupart des lecteurs associent le livre des Proverbes aux brèves sentences savoureuses que l'on trouve dans les deux derniers tiers du livre. À quelques exceptions près, ces proverbes ne font pas explicitement référence à Dieu, ni à la rédemption ou à l'alliance. À première vue, ils frappent par leur bon sens pratique, leur expérience de la vie, leur humanisme, plutôt que par l'autorité divine qu'ils dégagent. Le premier proverbe en est l'illustration parfaite. Un fils qui a de la sagesse fait le bonheur de son père, mais un fils insensé cause du chagrin à sa mère. Nous avons déjà noté que le livre pouvait être divisé en deux grandes parties. Dans les 9 premiers chapitres, nous lisons de longs discours qui font place, dans la seconde partie, aux brefs proverbes caractéristiques du livre. Nous noterons ici que les discours fournissent le contexte d'interprétation des proverbes qui suivent. En d'autres termes, avant de se trouver face aux proverbes du chapitre 10 à 31, le lecteur entend d'abord l'enseignement des chapitres 1 à 9. Le thème majeur de ces premiers chapitres est celui de la grande valeur de la sagesse et le terrible danger de la folie. Cet enseignement atteint son apogée au chapitre 9, sur lequel nous allons maintenant concentrer notre réflexion. En Proverbe 9, le lecteur rencontre deux femmes qui cherchent toutes les deux à attirer son attention. Ces femmes sont sagesse et folie. Le lecteur est intégré à cette longue métaphore sous les traits d'un jeune homme qui est sur le chemin de la vie. Alors qu'il voyage, il entend deux voix qui rivalisent pour attirer son attention. Les deux femmes commencent par lancer le même appel. « Venez par ici, entrez donc, vous qui n'avez pas d'expérience. » Le lecteur implicite est un homme qui est tout particulièrement sensible aux voix féminines qu'il entend le long du chemin. Mais qui sont ces femmes? Que représentent-elles? Lorsque l'on parvient à Proverbe 9, la sagesse est une figure bien connue du livre. Dès Proverbe 1, versets 20 à 33, on a fait la connaissance d'une femme qui invite les hommes et leur demande instamment de venir recevoir son instruction. Et la sagesse de Proverbe 8 médite sur sa nature et son but, ainsi que sa relation avec Dieu. La folie personnifiée n'est pas aussi présente dans les chapitres qui précèdent. Elle ressemble cependant beaucoup à l'autre femme, la femme adultère, contre laquelle le père sage met en garde son fils. La localisation de la maison de la sagesse de Proverbe 9, en haut des lieux les plus élevés de la ville, fournit une clé d'interprétation de sa nature. Dans le Proche-Orient ancien, seule une personne avait le droit de demeurer à l'endroit le plus élevé de la ville, le dieu de cette ville. À Jérusalem, de même, l'édifice situé à l'endroit le plus élevé était le temple de Sion. Cette remarque, on confirme ce que l'on sait déjà de la sagesse grâce au chapitre 8, elle représente la sagesse de Dieu et, en fin de compte, Dieu lui-même. D'un autre côté, le lecteur rencontre la folie, qui est également personnifiée sous les traits d'une femme et qui appelle, elle aussi, les jeunes gens naïfs qui marchent sur le chemin de la vie. Il est significatif qu'elle demeure, elle aussi, aux deux points les plus élevés de la ville, comme on le voit dans le verset 14 du chapitre 9. Elle aussi représente le divin, mais dans son cas, toutes les divinités du Proche-Orient ancien qui s'oppose à Yahweh. Tout au long de son histoire, Israël fut tenté d'adorer les dieux comme Marduk ou Ishtar de Babylone, ou même plus fortement encore les dieux cananéens Baal et Asherah. Le lecteur se trouve donc face à une décision à prendre. Les deux femmes l'invitent à dîner avec elles, à partager leur intimité, et pour décoder la métaphore, à les adorer. Choisira-t-il la sagesse ou la folie? Choisira-t-il Yahweh ou Baal? Le choix qui se trouve devant nous, alors que nous marchons sur le chemin des proverbes, qui est en fait le chemin de la vie, apparaît donc clairement. Nous pouvons choisir Yahweh ou un autre Dieu. Quel sera notre choix? Telle était la situation dans laquelle se trouvait l'Israélite de l'Ancien Testament. Il devait choisir entre le culte de Yahweh et le culte de Baal. Beaucoup tentèrent de faire la synthèse des deux, mais les prophètes leur firent sévèrement remarquer que le compromis équivalait à l'apostasie. C'était Yahweh seul ou rien. La situation concrète pour les Israélites était donc exactement celle de Proverbe 9. Ils étaient face à un choix. Proverbe 1 à 9 présente ce choix de façon remarquable. À travers le prisme de Proverbe 1 à 9, On peut voir combien les proverbes brefs qui suivent sont en fait profondément théologiques. À la lumière du choix qui est présenté en Proverbe 9, on se rend compte que les paroles qui suivent dépassent de loin le bon conseil qu'elles semblent apporter à première vue. Proverbe 10, verset 1, cité plus haut, permet d'illustrer cette conclusion. Si les enfants apportent de la joie à leurs parents, alors ils sont sages. Dans le langage de Proverbe 9, cela signifie qu'ils ont montré par leur comportement qu'ils avaient choisi la sagesse, ce qui veut dire qu'ils se sont attachés à Yahweh. D'un autre côté, si les enfants apportent du chagrin à leurs parents, alors leur comportement montre qu'ils ont fait allégeance à Dame Folie, représentation poétique d'une divinité païenne. Vu sous cet angle, le choix entre la sagesse et la folie est bien davantage qu'une réponse à la question « Comment s'en sortir et avancer dans ce monde ?» C'est une question de vie ou de mort. Proverbe chapitre 3, verset 18, après tout, dit que « Tous ceux qui choisissent la sagesse choisissent la vie. » De plus, la terrible vérité qui concerne Dame Folie est qu'elle est une meurtrière. Elle invite des gens à un repas fin, mais ils n'en reviennent jamais. Ses invités sont au séjour des morts. Verset 18, chapitre 9. Troisième point qu'on va regarder, c'est deux pièges à interpréter lorsqu'on lit les proverbes, qu'on cherche à les interpréter. Nombreux sont les chrétiens qui utilisent le livre des proverbes comme une anthologie de devises. Ces sentences accrocheuses fournissent une série de déclarations concernant la manière dont il convient de vivre. À un niveau plus sophistiqué, les proverbes sont souvent utilisés comme une ressource en relation d'aide. On ne peut nier que le livre fournisse des directives en vue d'un comportement sage, c'est-à-dire pieux. Cependant, deux pièges doivent être évités. Premièrement, la tendance à absolutiser les proverbes. Et le deuxième piège, une lecture isolée et abstraite des proverbes. Donc, on va regarder le premier point, l'absolutisation des proverbes. Les nombreux proverbes du livre doivent être interprétés et appliqués dans le contexte de l'ensemble du livre et même d'ailleurs de l'ensemble de la Bible. Ils ne sont pas des promesses divines qui seraient valables ici et maintenant, mais des observations véridiques que le passage du temps viendra conserver.
Confirmer.
Verset 26 du chapitre 14, ça dit « Celui qui révère l'Éternel possède une solide assurance et il sera un refuge pour ses enfants. » Le livre de Job apporte un correctif à l'idée selon laquelle ce proverbe serait systématiquement vrai dans le présent. L'application mécanique de ce proverbe au temps présent est à la base du raisonnement des trois amis de Job. Cependant, à la lumière de l'enseignement biblique concernant la justice de Dieu et le jugement final, l'affirmation est certainement vraie. Le Seigneur est une solide assurance, y compris pour des croyants qui sont tués par ceux qui font le mal. De plus, certains proverbes sont vrais seulement dans certaines situations. Les proverbes incarnent la sagesse. Seule la personne sage connaît la situation dans laquelle le proverbe s'applique. L'exemple le plus frappant vient à ce sujet de la comparaison des versets 4 et 5 du chapitre 26. Ça dit « Ne réponds pas au sot selon sa sottise, tu finiras par lui ressembler. Réponds au sot selon sa sottise, sinon il se prendra pour un sage. » Alors, ça semble contradictoire. Mais là, le fond, c'est en train de nous ramener à notre propre jugement. Il y a des fois qu'il vaut mieux pas répondre à quelqu'un, parce que ça vaut pas la peine, Puis il y a des fois qu'il faut que tu y répondes pour montrer sa folie. Et pour nous montrer que, dans le fond, Dieu nous a donné la capacité de juger de quelle situation s'applique. Les deux choses sont vraies, mais accepter que c'est laissé un peu à la discrétion de la personne. En d'autres termes, cela dépend des sceaux, et seul le sage est suffisamment sensible à la nature humaine pour savoir quand appliquer l'un et quand appliquer l'autre. Et la deuxième problème avec l'interprétation, c'est vraiment les isoler, isoler les proverbes. L'autre risque potentiel de lecture des proverbes serait d'isoler tel proverbe dans son contexte, de son contexte canonique, en glanant ici et là dans le livre des pépites de bons conseils. L'analyse proposée plus haut des rapports entre proverbes 1 à 9 et 10 à 31 constitue la première étape permettant de corriger une lecture exclusivement moraliste du livre. L'étape suivante consiste à rapprocher la théologie du livre des Proverbes à la théologie du Nouveau Testament. Ainsi, lorsque les chrétiens lisent le livre des Proverbes à la lumière du progrès qu'apporte le Nouveau Testament à la Révélation, ils se trouvent face à la même question que les Israélites d'autrefois à une différence près. Choisirons-nous de manger avec dame sagesse ou avec dame folie? La sagesse qui nous appelle n'est autre que Jésus-Christ, tandis que la folie qui tente de nous séduire est toute chose créée que nous mettons à la place du Créateur, comme on peut le lire dans Romains, chapitre 1, verset 22-23. Quatrième point qu'on va regarder, l'origine, les enseignements et la valeur de la sagesse. Alors, je vous ai mis un tableau, je vais vous le laisser le regarder chez vous. Donc, on a les origines de la sagesse dans une colonne, donc qui nous dit qu'ils sont en Dieu, ils sont depuis l'éternité et ils sont avant toute chose. Et les enseignements, c'est qu'on voit que le discernement et l'intelligence de grandes choses et ce qui est droit, la vérité et l'horreur du mensonge. Alors, je vous laisse regarder le tableau. Vous pouvez comparer ces choses-là. Alors, vous allez voir la sagesse, à la fois ses origines, à la fois ses enseignements et à la fois la valeur de la sagesse. Et le dernier point, c'est le cinquième, la femme vertueuse selon le livre des Proverbes. Alors, on lit dans le Proverbe chapitre 31, verset 10, « Qui peut trouver une femme vertueuse pour son prix est bien au-dessus des rubis? » Alors, une femme vertueuse, ça vaut cher, comme ça dit, comme ça, le texte le dit. « Pourquoi la femme vertueuse, de Proverbe 31, fait-elle tout ce qu'elle fait? Pourquoi a-t-elle contribué aux besoins des pauvres? S'est-elle levée tôt pour prendre soin de sa famille? » Parler avec bonté et aider son mari à être bien connu dans les portes. Parce qu'elle a été motivée à faire tout ce qu'elle a fait par crainte du Seigneur et le désir de garder ses commandements. Elle embrassa son Dieu, étant donné le rôle d'épouse et une mère par soumission au Seigneur et à sa parole. Elle a fait tout pour sa gloire. Plusieurs filles ont été vertueusement, mais tu les surpasses toutes. La faveur est trompeuse et la beauté est vaine. Mais une femme qui craint le Seigneur, elle qui sera louée. Donnez-lui le fruit de ses mains et que ses propres œuvres la louent dans les portes. Quand nous obéissons à Dieu, la vertu suivra. Les femmes ne peuvent devenir vertueuses si elles ne craignent pas le Seigneur et ne s'efforcent d'obéir à sa parole en toutes choses. Alors, vous avez encore un autre tableau que je vous ai laissé, où vous avez une bonne femme avec la description de ce qu'elle est, avec les versets qui suivent. Vous avez aussi la question, non seulement elle est une bonne femme, elle est une bonne épouse, et ça décrit ce que c'est une bonne épouse selon Dieu, et ça décrit aussi ce qu'elle est comme une bonne mère, selon Dieu. Ça dit, elle habille sa famille sagement, elle nourrit bien son foyer, elle magasine sensiblement, etc. Elle est aussi même une bonne voisine. Donc, la femme vertueuse, une bonne femme, une bonne épouse, une bonne mère, une bonne voisine. Et quand on parle de sa valeur pour une bonne femme, on dit son prix surpasse de beaucoup les perles. Et quand on regarde la bonne épouse, Dieu donne sa louange, ses enfants se lèvent et la disent bienheureuse. Son mari aussi, il la loue. Et une bonne mère, on parle de sa prééminence, mais toi, tu les surpasses toutes. Et une bonne voisine, ça dit, le secret d'une bonne voisine, c'est la femme qui crée l'Éternel. Quand on crée l'Éternel, on est toujours en accord avec Dieu et on est béni. Alors, trois applications. Le livre des Proverbes est éminemment pratique. Il nous apprend à vivre notre vie quotidienne et terrestre à la lumière des lois célestes. Lisons-les souvent, méditons-les attentivement et apprenons la sagesse pour notre plus grand bonheur et aussi pour la gloire de Dieu. Deuxième application, poursuivons ardemment dame sagesse et évitons à tout prix dame folie. Que l'Éternel nous donne la grâce de le faire avec discernement. Troisième application, beaucoup de bons ouvrages ont été écrits pour nous expliquer plus en profondeur le sens des proverbes. Procurons-nous des outils pour mieux les comprendre et pour mieux les appliquer à nos vies. Glorifions le Seigneur de nous avoir donné si généreusement tous les outils nécessaires à notre bonheur. Amen.